Seigneur, ne regarde pas aux résultats, mais il regarde à nos cœurs. Et nous, bien souvent, eh bien, on s'est disqualifié quand on regarde nos résultats. Et du coup, si on se disqualifie, eh bien, l'ennemi arrive à nous ravir et nous remettre sur le bord du chemin. Donc, Dieu regarde au cœur, il regarde à la confiance, il regarde à des cœurs qui croient et qui obéissent. Et pour obéir, ça nous parle d'intimité. C'est ces temps qu'on a passé ensemble tout à l'heure. Et c'est vraiment important. Et vous savez, nous vivons une période passionnante de transition. Vous savez que, je pense plusieurs ont entendu, l'Église est en train de revenir. Le Seigneur appelle son Église, il la ramène dans, selon ce qui est sur son cœur, non pas une Église qui essaye avec ses propres forces de faire ce qu'elle peut, mais une Église qui sait qui elle est, qui sait qui est Dieu, qui comprend ce que Dieu a fait pour elle. Je sais que pour moi, donc maintenant ça fait 31 ans que je suis dans le Seigneur, et il y a quelques années j'ai été impactée par ce message où j'ai compris que qui je suis, ça ne repose pas sur ce que je fais, mais ça repose sur ce que Jésus a fait, et que c'est d'un droit légal que j'ai été rachetée pour Dieu, parce que Jésus a payé le prix parfait. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment de la malédiction et du péché est tombé sur lui afin que j'aie la paix. Et ce qui fait que maintenant, quand l'ennemi vient pour me disqualifier ou pour me dire, c'est pas rose tous les jours, hein, je bataille comme tout le monde, mais je peux dire, oui, et alors, j'y vais pas avec ce que j'ai pu faire, mes échecs ou mes réussites, parce qu'il y en a qui vont avec leurs réussites. Alors, allô, nos réussites, c'est pas ça qui change quelque chose dans le cœur de Dieu. Ce qui change quelque chose dans le cœur de Dieu, c'est notre obéissance à lui. Et simplement, j'avais cet exemple, vous avez, il y en a plein, mais je me souviens de ce pasteur, je crois, d'Amérique latine, où le Seigneur lui avait parlé d'une salle, alors je ne sais plus, c'était plusieurs milliers de personnes. Il avait bâti dans la foi cette salle, et je ne sais plus, mais je crois qu'il a attendu quelque chose comme 20 ans. Et ils étaient une quinzaine dans cette immense salle, quoi. Donc vous imaginez tout ce qu'on peut ressentir ou quoi. Mais le Seigneur avait dit. Et donc avant que Anne ne prenne la parole, je veux dire que d'abord aussi je voulais redire dans ce que Luc a dit, s'il y a plusieurs associations, eh bien c'est à cause de la législation. Mais l'Église, ce n'est pas une histoire de législation, c'est une histoire de cœur, c'est un peuple qui est racheté, par le même sang, celui de Jésus-Christ, le prix est parfait, et ce peuple va, selon les endroits où il œuvre, il va prendre des formes différentes. Donc voilà, on ne peut pas dire c'est les uns d'un côté, c'est les autres de l'autre. Non, nous sommes un peuple qui va se manifester au travers de l'église Josué. Alors Josué, nous sommes en Alsace, donc l'association cultuelle ne peut gérer que ce qui est cultuel, c'est-à-dire le culte. Voilà. Donc tout le reste, Josué ne peut pas le gérer de façon légale. Donc il y a d'autres associations comme l'association Caleb, l'association Caleb AFP, la SCI qui gère la maison du tissage. C'est tout un programme et merci Seigneur pour les hommes au milieu de nous qui ont les compétences et la sagesse pour ces choses. Mais on ne veut pas les laisser tout seuls parce que parfois on dit « Waouh, ouais, super, ils font le boulot !» Mais ils ne sont pas tout seuls. Donc on va voir dans la pratique qu'est-ce que ça veut dire. Mais en même temps, je vais laisser la parole à Anne. Donc il y a une vision derrière l'église Josué. Il y a une vision derrière Caleb. Il y a des promesses. Il y a des promesses. Et le problème des promesses, c'est quand on est dans le désert. Alors quand on est dans le désert, qu'est-ce qu'elles deviennent les promesses? Et c'est là où Dieu touche nos cœurs, vous vous souvenez, il dit « Je t'ai amené dans le désert pour que tu saches qui je suis, pour que tu me connaisses tant qu'on croit qu'on peut y arriver par nous-mêmes et que par nos propres forces ça réussit, tout va bien, cool. » Mais quand ça ne marche pas et qu'on se rend compte qu'on est au bout et qu'on a beau faire tout ce qu'on peut, ça ne marche pas. C'est là où moi je dis « Seigneur, ça ne marchera jamais !» Et puis là, je voyais le sacristain de l'église protestante, et il me dit « Bah oui, c'est quand on dit « ça ne marchera jamais » que Dieu peut enfin intervenir, on est arrivé au bout de nous-mêmes, alors Dieu peut dire « Waouh, toi tu ne peux pas, enfin, c'est ce que j'attendais, c'est que tu reconnaisses que toi, tu ne peux pas. » Et comme on l'a reçu si fortement ce matin dans la présence de Dieu, on ne veut pas y aller avec nos propres forces, mais on veut recevoir Dieu. Dieu n'est pas contre l'excellence, au contraire. Mais il est contre l'excellence par nos propres forces. Parce que l'excellence par nos propres forces, ça glorifie qui? ça nous glorifie, nous. Et Dieu est un Dieu jaloux. Et il dit qu'il n'y a pas un seul juste, et il nous met tous à la même enseigne. Et la même enseigne, c'est quand on le reçoit, lui, selon ce à quoi il nous appelle. Quand il nous appelle à quelque chose, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Mais il y a eu besoin de ce temps dans le désert où il a éprouvé nos cœurs, où nous-mêmes on a pu être confrontés, parce que le Seigneur, il les connaît, nos cœurs. C'est nous qui ne nous connaissons souvent pas, qui ne connaissons pas où nous en sommes. Alors quand nous sommes dans le désert, on peut voir vraiment qui nous sommes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de rester là. On peut venir à Dieu et dire, Seigneur, je reconnais, ben voilà, il y a ça. Et ben là, je n'ai pas cru. Et là, j'ai cru que je pouvais y arriver toute seule. Et je ne vous dis pas, hein, moi, je fais régulièrement du ménage comme ça. Et heureusement, Dieu est bon et il dit que quand on vient à lui et qu'on lui demande pardon, non seulement il nous pardonne, mais il nous libère. Il nous libère et il nous donne sa provision. On veut vivre l'échange. Et nous sommes dans cette saison extraordinaire où Dieu amène son Église à savoir qu'elle n'est pas seulement sauvée, qu'elle n'est pas seulement guérie et acceptée, mais qu'elle est fille, qu'elle reçoit tout ce qui est en Christ. Parce que là où il nous envoie, on ne peut pas y aller avec nos réserves propres et nos propres efforts, parce qu'on n'ira pas loin. Et vous voyez combien les ténèbres augmentent. Mais la parole dit que quand les ténèbres augmentent, la lumière augmente aussi. La seule chose, c'est dans quel royaume nous tenons-nous. Et tout commence là. En quoi croyons-nous ? Et ce que l'ennemi veut toujours faire, c'est que nous regardions à nous-mêmes. Et dès qu'on regarde à nous-mêmes, c'est comme dans le désert. Tu regardes aux serpents qui sont par terre, tu meurs, mon ami. Et il a dit, regardez là-haut, regardez la croix. Regardez ce que Christ a fait, comme Pierre quand il a voulu marcher sur l'eau. S'il regardait à lui-même, il coulait. Mais si on regarde à ce que Christ a fait, et ça s'appelle la confiance, ça s'appelle l'obéissance, ça s'appelle l'humilité. Ça s'appelle l'humilité. Et avant de donner la parole à Anne, je voudrais dire quelque chose qui m'a touchée très profondément hier. On était au Rimlisov pour écouter notre ami Charaboutique. Et il a parlé de ce fameux passage de l'ivraie et du bon blé que nous connaissons tous, ou ceux qui ne connaissent pas. Ben simplement, ça parle de la parole de Dieu qui est semé dans les vies, et ça donne du bon blé, mais ça donne aussi de l'ivraie. Et lui, il a parlé de tout ce temps où il y a eu Mâcon, pour ceux qui ont connu, où il y a eu le réveil, où il y a eu tant de manifestations. Et il disait, ben, il y avait des manifestations qui venaient du Saint-Esprit, et il y en avait qui ne venaient pas du Saint-Esprit. Mais la parole de Dieu nous dit, et le Seigneur dit, garde-toi de vouloir arracher toi-même l'ivraie. Garde-toi de dire qu'est-ce qui vient de lui et qu'est-ce qui ne vient pas de lui. Parce que tu risquerais d'arracher le bon blé. Et moi, je vais vous dire, Seigneur, merci. Parce que par moment, ben, j'ai marché par la chair. Si j'avais été arrachée à ce moment-là parce que j'avais marché par la chair, eh ben, je crois qu'il n'y en aurait pas beaucoup parmi nous qui seraient encore là aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta patience. Par contre, ce qu'il a dit et qui me touche fortement, et ça c'est un avertissement pour nous tous, il dit à la fin, quelle va être la différence entre l'ivraie et le blé ? C'est l'humilité. Le blé se plie dans l'humilité. Et alors, il ne restera que l'ivraie. Et alors, l'ivraie pourra être fauchée. Mais le blé, ceux qui restent dans l'humilité, dans la reconnaissance qu'ils ne sont rien, qu'ils n'ont rien par eux-mêmes, mais qu'ils ont tout par lui, pour lui et en lui, alors ils vont passer. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus s'est abaissé lui-même. Il a laissé son trône. Il a laissé son trône, il s'est dépouillé volontairement. Il s'est laissé dépouiller volontairement. Et il est allé juste l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour ça que le Père l'a souverainement élevé en gloire. Donc mes amis, dans ces temps de désert, le Seigneur veut simplement, il nous appelle, et il nous appelle à nous tenir humblement, à nous baisser, à dire « Seigneur, on ne peut pas tout seul. On ne peut pas tout seul. Mais nous croyons ensemble en toi. Et nous nous attendons ensemble en toi. Et je rends grâce à Dieu ce matin parce qu'il nous a gardés tous. Parce que nous sommes là. Il y en a qui sont morts sur le terrain. Mais je crois que Dieu peut les faire revenir. Et nous sommes dans ces temps où on ne veut pas se juger les uns les autres. On a tous besoin du pardon et de la grâce de Dieu. aucune de nos forces ne sont suffisantes. Même nos forces ajoutées ne sont pas suffisantes. Même si la parole de Dieu dit un, on chasse mille, et deux, on chasse 10 000, ça parle de la foi. Ça parle pas de nos propres forces. Mais ensemble, nous voulons comprendre le plan de Dieu. Parce que les temps sont là, la moisson est mûre. C'est le temps où Dieu nous envoie. C'est le temps de l'accomplissement des promesses. Parce qu'ils sont nombreux, ceux qui ont faim et soif et qui attendent.
Je crois qu'on vit vraiment une saison nouvelle. Et même ce qu'on vit là, dans ce culte, ce message à plusieurs voix, c'est vraiment, ça fait partie du nouveau. Et on revient, on est quelques-uns à revenir de France en feu. Surtout, ne manquez pas la semaine prochaine. On ne voudrait pas seulement vous faire un compte-rendu. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un compte-rendu, c'est une impartition. C'est une communication. On vous donne le butin. On partage le butin avec vous. On a fait ensemble l'histoire à 1300. Et c'est, voilà, c'est, la France, voilà, on a en nous un parti profond en nous, on a ce qu'on a vécu, on a ce que le Seigneur dit sur le pays, et rien ne pourra nous l'enlever. Et c'est un point fort. Bon, c'est l'image, et c'est ce qu'on a vécu, une bombe atomique avec radiation permanente. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'énorme qui est lancé sur le pays, qui est là, c'est en mouvement, rien ne pourra l'arrêter, et on est dedans, et vous avec, et c'est très, très, très puissant. Avec dans l'unité, dans la foi, dans toutes les générations ensemble, et il y a une espérance, et moi, je m'appelle Anne, comme vous savez. Il y en a qui s'appellent Pascal. Pascal, c'est résurrection. Anne, c'est la grâce. Anne Pascal, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est énorme. Et je me rends compte que, là, vous savez, là, il y a une première Anne. Un aparté. Elle était toute petite dans le temple. Waouh, j'ai vu un bébé, c'est Jésus, c'est le Messie, la rédemption, la consolation de Jérusalem arrive. Et elle est partie, elle louait Dieu, elle était complètement démontée dans le temple, j'imagine. Voilà. Et puis, on est pareil. Hein, avec Pascal, ouais, c'est ça. Et puis il y a toute la troupe là aussi. On est dit, waouh, le royaume de Dieu, le roi des rois, ça y est, ça vient sur le pays. Et là où le péché a abondé, c'est-à-dire la France, la grâce, elle surabonde. Et nous, on dit, la grâce, elle surabonde. Et la grâce, elle va être vue. Ensemble, bien sûr, ensemble. Et à France en feu, ben voilà, enfin à Paris, c'est comme ce qu'on a vécu ce matin, c'est-à-dire que les gens se succèdent et puis à part ce qu'ils ont reçu, et puis voilà, donc l'orateur lambda, unique, tout ça, c'est fini, quoi. On ne sait pas trop. On va prendre tous des nouvelles formes, mais on ne sait pas ce que c'est. Hein. Il y a énormément d'inconnus. Alors, Caleb, ça s'intègre dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus large. Là, il y a le Caleb local, la vision locale florivale, parce que Dieu est un Dieu d'incarnation, de local, de terrain. Et puis, il y a la vision générale. Et j'aimerais qu'on prenne ensemble nombre 13-30, si tu peux nous mettre nombre 13-30. Caleb, Alors d'abord, je vais poser une question extrêmement indiscrète. Ceux qui ne veulent pas répondre, ils peuvent ne pas répondre. Qui parmi nous a plus de 40 ans ou 40 ans et plus de marche avec le Seigneur? Je ne vais pas donner l'âge, non. 40 ans et plus. Oui. Alors, il faut qu'on les applaudisse. Hein. 40 ans et plus de marche. Alors, l'étage en dessous. 30 ans, entre 30 et 40. Qui? Voilà, il y en a aussi quelques-uns. Voilà. Donc, oui, on s'applaudit. Voilà, d'accord. Entre 20 et 30. Ah, quand même, hein, il y en a, ouais. Bah. Et puis, il y a tous les autres en dessous, voilà, et peut-être ceux qui ne sont pas nés encore, voilà. Donc, ce qu'on va dire, ça concerne tout le monde, hein, mais peut-être à des degrés différents. Parce que ceux qui ont 40 ans et plus, 30 ans et plus, 20 ans et plus, le désert, on connaît beaucoup. Hein, et le désert spirituel français, on connaît aussi. Alors, ne regardez pas l'Alsace, on est vraiment, vraiment une terre largement irriguée, mais je peux vous dire qu'il y a des déserts, et puis Christiane est très bien placée pour le savoir, il y a des déserts spirituels français, mais on nous a dit la semaine dernière, il y a des départements, il n'y a même plus de champs d'oiseaux. Et ce n'est pas la région parisienne, hein. Tellement c'est pétri d'occultisme, de sorcellerie dans nos campagnes, là. Donc, les déserts, il y a. Et nous, depuis 40 ans, le désert français, oui, enfin, on connaît. Et puis, il y a Caleb. Et Caleb, il a dit, tu l'as affiché, voilà. Il y avait des promesses de Dieu, comme a dit Manuela, des promesses de Dieu. Et puis, il y avait un pays promis, il y avait des promesses. Et puis Caleb, l'esprit de Caleb dit, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Et puis, voilà, on peut prendre la suite. Il y a la réaction du peuple, tout le monde râle, tout le monde rouspète. Voilà. Très, très français aussi. Nombre 14, à partir du verset 9, quelque chose de très précis, 14, verset 9. Nombre 14, verset 9. Voilà ce que dit Caleb, toujours le même Caleb. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel, ne craignez point les gens de ce pays, ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. C'est très fort ce qu'il y a dans cette exhortation. Et en fait, c'est ce que le Seigneur a fait tout au long de ces années de marche avec le Seigneur. Ne soyez point rebelles, ça veut dire, autrement dit, obéissez. Obéissez à quoi ? À la parole. C'est-à-dire, pour nous, Français, ne vous confiez pas à vos propres pensées humaines, alignez-vous avec la parole de Dieu. Et ça fait des années que le Seigneur, il nous décrasse, avec tous nos liens culturels, familiaux, générationnels, pour nous aligner avec sa parole et ne pas nous confier à notre propre pensée. Et là, il y avait du boulot. Enfin, il y a toujours du boulot. Ne craignez point. Alors là, deuxième chose, les craintes. Waouh ! Alors là, il y en avait un paquet, je ne sais pas vous, mais moi, j'en ai un énorme paquet de craintes de cachées au tréfonds de nos âmes. Il y a plein de craintes. Et avec beaucoup de grâce, le Seigneur a continue à déraciner les craintes. Une fois, Rustine nous a fait un message, demandez au Seigneur ce qui ne lui plaît pas en vous. Alors, c'était un petit peu risqué de dire ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne te plaît pas en moi ? Tes craintes ! Waouh, c'était direct. À la seconde, j'ai eu la réponse. Bon, ah oui, d'accord. Avec le verset, l'amour parfait de Dieu bannit les craintes. Bon, Seigneur, s'il te plaît, vas-y, déracine les craintes. Je dis, Seigneur, parce que je crois que vraiment, Seigneur, le processus est en cours, il continue. Alignement avec la parole de Dieu. Dieu dit, tu crois, tu discutes pas, tu t'alignes pas, tu regardes pas tes bobos, tes pensées, tes trucs, tes machins. Tu t'alignes avec la parole. Et puis, ne pas craindre. Alors cette semaine, j'ai vu quelque chose de formidable, un signe prophétique formidable à l'école Daniel, établissement Daniel. J'avais un petit atelier théâtre et puis voilà. Et je fais faire des exercices de mime en théâtre et je donne à chaque plusieurs élèves, ils étaient 9, des noms de sentiments et devaient mimer les sentiments. Voilà. Et puis je m'approche d'une élève, c'était une troisième, une élève de troisième. Elle me dit, Madame, je ne peux pas mimer ce sentiment, je ne l'ai jamais éprouvé. Quand je regarde le sentiment, ce n'est pas possible, tu n'as jamais éprouvé ça. Et puis la voisine dit, ah non, je peux vous dire, madame, c'est vrai, elle dit vrai, elle n'a jamais prouvé, c'est vrai, elle n'est jamais comme ça. Vous savez ce que c'était le sentiment ? Inquiétude. Je la regarde, une troisième. Elle respirait la paix, cette fille, réellement. Il y a un spécimen qui existe à l'école Daniel, en troisième, elle respire la paix. Et après, bien sûr, le Seigneur parle. J'ai dit, c'est quoi ce phénomène ? C'est extraterrestre, martienne. Et en fait, j'ai compris quelque chose. Le lendemain, on a eu une TDR à la maternelle. Et on a compris, on a beaucoup prié, chanté l'amour du Père. Voilà. Une TDR, c'est un créneau de maison de prière. Et une fois par semaine, on a un créneau de maison de prière dans l'école. Et on change régulièrement de salle. Donc ce mercredi-là, on était à la maternelle, avec toute petite table, là, assis. Et on a beaucoup prié, chanté l'amour du Père, la sécurité de l'amour du Père. Et le lendemain, j'ai dit à une collègue, Marie-Thérèse, j'ai dit, mais voilà, la maternelle, vous enracinez les enfants dans la sécurité complète de l'amour du Père. Et en plus, si la famille et elle aussi, les parents, sont aussi dans l'amour du Père, il y a une sécurité profonde que nous, notre génération, on n'a jamais connue quand même. Sniff, nous, on était dans la peur, nous. Et puis, mais eux, il y a moyen, vous voyez, une régénération tellement enracinée dans l'amour du Père, dans cette sécurité profonde, qu'ils ne connaissent pas la peur. Ou alors, pour eux, c'est rien, quoi. Alors que nous, ça a été un combat énorme, les peurs. Des normes, voilà. Viking, c'est une référence, Astérix et les Vikings. Notre pasteur, il connaît beaucoup Astérix. Ouais. Ou Astérix et la reine, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça... Voilà, les peurs. Mais nous, dans le désert, qu'est-ce qu'on a dû lutter avec ça ? Vous êtes d'accord, hein ? Qu'est-ce qu'on a dû ramer avec ça ? Ne craignez point. Et alors, plus fort que ça, ils nous serviront de pâture. Les géants. Alors là, c'est bande de Gaulois, je vous exhorte. Astérix, Obélix. Les Romains, pensez à Obélix. Chouette, des Romains. Désolé Manu et désolé Mitia, vous êtes romaine, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Voyez, rappelez-vous, Obélix, le cadeau d'anniversaire, c'était plein de Romains. Et en fait, c'est totalement biblique. Les ennemis nous servent de pâture. Réjouissons-nous. Les problèmes, les épreuves, en plus, la parole dit, réjouissez-vous dans toutes les épreuves. Chouette, une épreuve. chouette, un problème. Alors, engagez-vous à l'école Daniel, il y en a plein. Et ceci dit, la foi, elle monte vitesse grand V, parce que sinon on est mort, on n'a pas le choix. Voilà, donc ça c'était la mentalité Caleb. Alors je ne dis pas que nous, les 30, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on était tous comme ça, soyons honnêtes. Mais disons que le Seigneur nous travaille pour qu'on arrive à cet esprit de Caleb. Mais ce n'est pas fini. Donc vous connaissez l'histoire, enfin ceux qui ne connaissent pas, je le dis, toute une génération meurt. Et ça, je pense que c'était le plus dur pour nous, les 20, 30, 40 ans de conversion, c'est voir nos amis tomber. Mourir, nous laisser. Enfin, après, on dit, il y a ce chant qui dit si mes amis s'en vont, ben moi je continue. Vous voyez ? Et je pense que chacun de nous, on a connu ça, des amis qui s'en vont, qui ne continuent pas la marche, qui arrêtent. Et ça, c'est une des choses les plus douloureuses de ces années de désert, c'est ça quand même. Hein. Voilà. Et puis ceux qui tombent dans les ornières, et puis ceux qui sont dans les déceptions, et l'amertume, tout ça, ça c'est vraiment dur à vivre. Mais comme a dit Luc ou Manu, il y a une espérance. Il y a une espérance. Même pour nos proches qui sont arrêtés en cours de route, il y a une espérance et on tient ferme. Voilà, ça c'était important à le dire. Et puis on arrive, donc les années passent. Et en fait c'est 45 ans après, hein, c'est plus que 40 ans, c'est 45 ans. On arrive à la suite. Alors la suite, ça y est, il y a une nouvelle génération qui monte. Nouvelle génération, ça ne veut pas dire que des jeunes au sens âge. Hein. C'est une nouvelle génération qui arrive. Et là, c'est extraordinaire parce qu'ils n'ont pas du tout la même mentalité. Et on va voir ce qui se passe parce qu'il y a toujours Caleb qui est là, Josué aussi, bien sûr. Alors, on va prendre Josué 14. Si tu peux prendre Josué 14 à partir du verset 6. Et on retrouve notre Josué. Notre Caleb. Donc, des années ont passé, hein. Et Caleb, dans quel état il est ? Il pourrait être usé, déconfit, désespéré, déprimé. Est-ce que c'est ça ? Josué, alors tu l'as ? Voilà. Alors il continue, tu peux continuer la suite, voilà. Il fait de tout l'historique. Hein. Et puis il rappelle la promesse de Dieu. Je vous laisse lire. Hein. L'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, donc la promesse de la terre promise, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je crois qu'au milieu de nous, il n'y a personne qui a 85 ans. Hein, encore, personne. Hein, ça va venir. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoyait. Alors ça, je vous le dis, on le prend, hein, comme promesse. On le prend. Je suis vigoureux comme au jour... En fait, c'est... Et ça nous a été dit, on a la même passion, c'est Pierre Bonin qui dit ça, les Caleb, on a la même passion qu'au jour de notre rencontre avec Dieu. La même passion, ça c'est vraiment, vraiment la grâce de Dieu. La même passion, la même passion pour s'emparer des promesses, la même passion pour la terre promise. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Il n'a pas été usé. Et ça c'est pour nous, je pense vraiment, et même ceux qui se sentent un peu usés, c'est pas grave, le Seigneur veut profondément nous renouveler pour les temps à venir. Je dis à Marguerite, Heinz, Christiane, spécialement nos plus âgés, Alain, les 40 et plus là, il y a vraiment un profond renouvellement, un rajeunissement, quelque chose d'extraordinaire. Je suis aussi vigoureux, j'ai autant de force que j'en avais alors. Il faut le faire, hein. Autant, c'est complètement surnaturel. Soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour rentrer. En plus c'est toujours des combattants. Ça va Alain, tu acceptes le programme? Et alors là, il nous stupéfie. Il pourrait dire quelque chose de quand même facile, adapté à mon âge vénérable, quand même, vous voyez. Pas trop de problèmes, quelque chose d'assez, voilà, une conquête pas trop compliquée. Il a choisi, regardez voir, donne-moi donc cette montagne. Montagne, vous savez, les montagnes de problèmes, là. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé de Sotala, car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim, ces horribles géants qui avaient fait très, très, très peur aux autres Israélites. Ah non, moi je les veux, c'est là. Je veux les Anakim. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Alors là, je peux vous dire, traduction dans la société moderne, le domaine de l'éducation, c'est bourré de villes fortifiées, grandes, remplies de géants, l'humanisme, rationalisme, théorie du genre, c'est bourré de géants. Il n'y a pas mieux. Bon, je rappelle que Caleb appartenait à la tribu de Juda. Juda, c'est la louange. Ah oui, la louange, la reconnaissance, c'est indispensable pour s'emparer de tout ça. Mais il y a d'autres montagnes, hein. Il y a l'économie, j'ai vu ça avec Pierre Bonin, l'économie, c'est aussi un domaine rempli de géants. Mais le Seigneur dit, c'est pour nous, je veux y mettre mon royaume. L'Éternel sera, bon, peut-être avec moi, en fait, il a été, je les chasserai comme l'Éternel a dit. Donc vous voyez, cette fois, je ne sais pas ce qu'il y a encore jusqu'au verset 15, tu peux continuer. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, il lui donna Hébron, et Hébron, le sens du mot hébreu, c'est en fait, ça veut dire unité. unité. Et ça commence par là. C'est ce qu'on a vécu à France en Feu et tout ça. Unité, c'est ce qu'on a vécu à Colmar fin septembre. Unité. Ça commence par là, la conquête. Hein. Unité des frères et sœurs. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Donc unité des frères, unité. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron, voilà. Alors, donc, même pas peur des géants. Mais c'est pas seul, y a pas que ça. Hébron, en fait, Caleb, c'est un père de famille. Il a eu beaucoup d'enfants. Et dans ses enfants, il a une fille. Alors sa fille, elle a un nom particulier, elle s'appelle, c'est très très particulier, elle s'appelle Aksa, A-C-S-A ou A-K-S-A, pas le Aksa, hein. A-C-S-A, A-K-S-A, selon les traductions. Hein. Et Aksa, alors curieusement, l'histoire d'Aksa, c'est quelques versets dans la Bible, mais c'est rapporté deux fois. Je pense que le Seigneur a voulu mettre l'accent. C'est dans Josué 15, versets 13 à 19, et c'est dans Juges 1, versets 12 à 15. C'est quand même étonnant. Hein. Alors, on peut prendre Josué, chapitre 15, versets 13 à 19. Aksa. Alors, elle est formidable, cette Aksa. D'abord, c'est la fille de Caleb. Donc, voilà, Caleb, c'est quand même pas rien, un super papa, Caleb. On donna à Caleb une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel avait ordonné. On lui donna Kiriath Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak, rien que ça, le père du géant. Caleb enchassa les trois fils d'Anak, Shéchaï, Ayaman, Talmaï, enfant d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath Sapher. Luc Bussière a fait un excellent message sur la signification profonde de Débir, Hébron, Kiriath Sapher. Enfin, voilà, il faut peut-être que tu le redonnes d'ailleurs, Luc. Ça fait très 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 longtemps, c'est encore dans la salle à côté, je crois. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Sapher, qui la prendra. Donc, un vainqueur, un conquérant. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Donc Othniel, c'est aussi la jeune génération, là. Et Othniel, ça veut dire Dieu est puissant. Donc il connaît la puissance de Dieu. Elle reçoit, fille Aksa, elle reçoit, lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Donc elle veut un héritage. Et puis, il y a un problème avec ce champ. Elle a vu le champ. Ah, problème. On va voir ce que c'est le problème. Donc, elle va voir son père. Elle descendit de dessus son âne. Alors, pourquoi la Bible dit, deux fois en plus, elle descend de dessus son âne. Alors, on peut parler de un respect pour son papa. Oui, ça peut être ça. Moi, je propose aussi une proximité. Elle va voir son père. Elle était juchée sur son petit âne, là, de Moyen-Orient, là. Elle descend. Elle va voir papa. Ça parle d'une intimité, une relation fluide, une relation libre avec son papa. Et Caleb lui dit, qu'as-tu ? Alors, la suite, elle répondit, fais-moi un présent. En hébreu, c'est fais-moi une bénédiction. Donne-moi une bénédiction. Elle sait que son père, il donne des bénédictions. Elle le sait. Et elle va le voir tout de suite. Elle lui demande, demandez, vous recevrez. Un problème, on va voir papa, on reçoit. Fais-moi un présent. Tu m'as donné une terre du Midi. En clair, une terre du Néguev, une terre aride, quoi. Une terre aride. Alors, la réaction d'Aksa, au lieu d'aller voir son papa, elle aurait pu râler. Mais enfin, c'est quoi ce cadeau ? Vous voyez, voir les choses tout en noir. C'est nul ce cadeau. Qu'est-ce que je voulais que je fasse avec ce cadeau-là ? C'est nul. Dans la salle à côté, il y a une image de Philippe Osney. Alors, pour le mois-ci, c'est quelqu'un qui dit « Hey, si on crée un club de pessimistes !» Et les autres disent « Non, mais ça ne va pas à la tête, c'est nul ton idée, ça. » Voilà. Donc, ça aurait pu être ça, vous voyez. « Non, mais c'est nul, c'est une terre de sans eau. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ? Je ne peux rien faire pousser dessus. » Donc, elle est allée voir papa. Il lui donna les sources supérieures, les sources inférieures. Alors, ça aussi, c'est bizarre, sources supérieures, sources inférieures. En tout cas, elle a eu de l'eau, ça, c'est sûr. Elle a eu de l'eau. Mais voyez, déjà, la réaction, au lieu de se lamenter sur son champ, son héritage qu'elle a, eh bien, elle a eu ce réflexe demander au père. Et cette jeune génération, et puis nous avec, parce que nous, on a appris des choses dans le désert quand même, les autres, on demande au Père, et il y a une révélation du Père qui est de plus en plus ample, de plus en plus énorme, qui vient. La semaine dernière, on a chanté des chants sur le Père, mais waouh, on sent que c'est cet approfondissement, cette révélation énorme, énorme, énorme du Père, que nous, on a mis des années à voir, et la jeune génération, elle coule dedans paisiblement. C'est impressionnant. Bon, eux, ils ont d'autres défis devant eux, hein, mais là, c'était extraordinaire, cette révélation du Père. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette révélation du Père, elle est vraiment, vraiment cruciale, parce qu'on va être dans cette terre promise, il y a forcément, on va s'emparer de plein de choses. On va s'emparer de forteresses, mais aussi on va confronter des tas de besoins des gens, de besoins du monde, de besoins de la foule. Et il y aura des foules, peut-être qu'il y a des besoins énormes devant nous. Et le Seigneur nous dit, ne soyez pas comme l'apôtre Philippe qui a dit, oh, on n'a pas de sous. Il y a des besoins énormes, Seigneur, la foule, t'as vu, tout ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous, on a 5 pains, 2 poissons, on ne peut rien faire, quoi. Hein. On n'a pas de sous. Il faudrait des salaires de 10 000 euros là, pour nourrir tout le monde. Et le même Philippe, quelques temps après, a dit, « Seigneur, tu me montres le Père ?» Il ne connaissait pas le Père. Donc, ce qui est crucial, c'est qu'on progresse, on approfondit cette dimension du Père parce que ça va nous permettre la multiplication des ressources de manière totalement surnaturelle. De toute façon, on rentre dans le surnaturel. Hein. Et alors, les sources d'eau, les sources en haut, les sources en bas, Pierre Bonin, j'étais à un séminaire Pierre Bonin, lui, je vous donne un petit cycle qui m'a bien aidé, ACSA, AXA. Voilà ce qu'il dit pour AXA. Alors, ce n'est pas forcément le sens biblique hein, de AXA, mais c'est juste pour nous donner une autre perspective. AXA, le A, c'est comme appel de Dieu sur notre vie. A comme appel. C comme caractère de Christ, bâti par la Trinité en nous. Et je dirais même en ce moment, c'est à vitesse accélérée. Ça bâtit. Le S, c'est comme savoir-faire, talent, compétence, que le Seigneur de toute éternité a placé en nous, pour les temps dans lesquels nous vivons, pour notre génération. Pour information, le descendant direct de Caleb, c'est Betsalel, celui qui avait créativité, don, etc., tout ce qu'il fallait pour le tabernacle, Betsalel, descendant de Caleb. C'est la même famille, super famille. Hein. Et il y a Hur aussi, celui qui a aidé Aaron contre Amalek, c'était aussi un descendant de Caleb. Et puis, donc, S comme savoir-faire, talent, compétence. Et le dernier A, c'est comme autorité, autorisation, mandat pour aller, autorité. Vous voyez, donc ça, c'est AXA. Jeune génération, mais nous aussi. Et ce qui est propre à la conquête du territoire, c'est que c'était les générations ensemble. Il y avait Josué et Caleb, une génération. Il y avait la jeune génération, on est vraiment ensemble pour y aller, quoi. Et ça, c'est notre force, c'est quelque chose d'énorme, énorme. Et donc, on est rempli d'esprit, ah oui, et voilà, on reçoit dans la foi ces sources d'eau, cet appel de Dieu sur nous, cette onction de Dieu, et qui fait jaillir les fleuves de vie de nous, c'est là. Et à Paris, on a beaucoup, beaucoup prié les sources là, les sources d'eau vive, les sources qui sont cachées dans le pays, les sources de l'histoire de notre pays, la semence de vie de tous nos martyrs, enfin, il y a des sources énormes, des fleuves de vie qui veulent jaillir de ce pays, mais là je ne vais pas empiéter sur le dimanche prochain parce qu'on va vous parler beaucoup des sources aussi. Voilà, donc on est dans des temps extraordinaires, c'était pour replacer le grand contexte de ce qu'on va faire, c'est-à-dire envahir la société avec toutes ces montagnes, l'éducation, la famille, l'économie, la politique, tout ça, il y a plein de montagnes, et puis nous on y va quoi, et puis on n'a même pas peur des géants et les générations ensemble, et les sources d'eau, et la connaissance du Père, et tout ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si... Ah oui, Ésaïe 43, je finis avec ça. Je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je mettrai des déserts, des fleuves d'eau vive dans la solitude, désert. Et c'est très important que nous, les plus anciens, on ne regarde pas au passé. Il y a vraiment une page blanche devant nous, il y a des choses nouvelles, et qu'on soit dans le nouveau, et qu'on soit avec la jeune génération, parce qu'il y a des gros combats. On nous a parlé de confrontation à venir, à France en feu, hein. Confrontation, combat, mais on y est ensemble. Et on fera tomber les forteresses. Et on prendra le pays. Et les fleuves d'eau vive couleront. Voilà.
Merci Anne. Donc on veut rapidement continuer sur ces générations ensemble. Alors je dirais qu'il y a un trait de caractère qui est très important dans les générations ensemble et dans le mot Caleb et dans les œuvres de Caleb, c'est la compassion. Dieu nous donne des entrailles de miséricorde et la compassion. Et il y a toujours une tentation, c'est de vouloir se servir de la vision ou alors que Dieu nous appelle à servir la vision. Je dis ça et c'est très important pour les jeunes et je peux me permettre de le dire parce qu'on connaît leur cœur et ils manifestent ce cœur de compassion, on l'a vu avec Elisabeth pour les parcours Alpha, avec Émilie qui a Portes Ouvertes, avec chacun qui se donne, avec Claire, les jeunes qui sont dans les maisons de prière, je pense à Olivia, je pense à comment ils nous servent aussi dans la louange. Et simplement, ne pas se servir de la vision, mais servir la vision. Ces entrailles de compassion, c'est l'amour de Dieu qui nous presse. Je vois mon Nathanaël là-bas, je vois tous ces jeunes qui sont là, qui sont magnifiques. Je ne sais pas tout ce qu'ils font, mais le Seigneur le connaît. En tout cas, on est tellement heureux. Et donc ça, c'est tellement important, d'autant plus que les outils que Dieu va nous donner. Je me souviens, l'autre jour, c'est Nicolas Guillet qui était avec nous à la louange. Et puis il nous dit, ça m'a fortement choqué. Il m'a dit, non, mais moi, je me suis fait plaisir en faisant la louange. Je n'ai pas servi Dieu, je me suis fait plaisir. Et quand il m'a dit ça, ça m'a choqué. Je n'avais jamais réalisé qu'on pouvait faire la louange pour se faire plaisir. Alors que pour moi, la louange, ça a toujours été la manifestation de ma passion pour Dieu. Mais donc, c'est pour ça que j'y attention. Parce qu'on va vers l'excellence. Dieu, on va vers des choses saintes. Dieu va mettre dans nos mains des outils incroyables et extraordinaires. On le croit. Mais on ne veut pas se servir. Mais on veut se servir avec les dons que Dieu nous donne pour donner à manger. Donc, je crois que ça, c'est vraiment très important. C'est ce cœur de compassion et c'est ce ensemble. Et moi, je sais souvent, ma fille, elle me dit, « Maman, c'est quand que ça sera fini en bas? C'est quand qu'on aura le studio d'enregistrement? C'est quand que la salle, elle sera terminée ?» Ça fait 5 ans qu'elle me dit ça. Ça fait 5 ans qu'on y travaille. Denis, je ne me trompe pas. Hein, ça fait 6 même. Et à chaque fois, j'ai dit, « Mais ma chérie, on ne pourra pas le faire sans vous. » Le problème, c'est que je réalise qu'on n'a pas vraiment communiqué. L'autre jour, je parlais avec Nathalie, qui est une récente au milieu de nous, gloire à Dieu, et on rend gloire à Dieu pour le salut qu'il a étendu sur Nathalie et sur toute sa famille, parce que ça continue. Et quand je lui ai parlé de la vision de Caleb, elle me dit, mais je ne connaissais pas. Et puis je voyais mon Timothée, qui lui est un ancien, qui a énormément servi. Alors là, un qui a beaucoup montré le cœur de serviteur, c'est Timothée. Merci Tim pour toutes les fois où tu as été là, pour servir en bas, pour décharger les cailloux. Parce que lui, il est à côté de son papa qui est jusque là. Donc si nous, la communication n'était pas très bonne, lui, il savait parce qu'il voyait son papa. Et il n'a pas laissé son papa tout seul, il est... Toujours où il a pu, il était là, à ses côtés, avec ses gros muscles. Hein, c'est pour ça que c'est devenu un grand gaillard, parce qu'il s'est donné à fond. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, vers là où on va, attention à la tentation. Vous vous souvenez, le premier qui est tombé, c'est Lucifer. Il avait toute la gloire de Dieu. Il devait ramener cette gloire à Dieu. Et un jour, il se dit, oh, ben, je préférerais la garder pour moi. Et là, mes amis, attention, ça, c'est la chute assurée et ça fait mal. Donc voilà, un cœur de compassion, et c'est quoi Caleb? Alors je voudrais vous dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu nous transforme. Donc il y a Caleb, on a commencé par Caleb et on a continué avec Caleb AFP. Alors Caleb, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une association culturelle pour pouvoir porter toutes les œuvres que Dieu va nous mettre à cœur. Et il n'y a pas que nous, il y a vous tous. Et puis là, Denis pourrait faire, je pense, une longue liste, parce qu'il y a 6 ans, on a fait une réunion spéciale par petits groupes pour regarder ce qui était dans le cœur de chacun. Et je ne vous dis pas toutes les visions qu'il y avait, c'était tout simplement énorme. Mais alors, Caleb, ça veut dire C comme centre, A comme action, parce que la compassion, ça amène à l'action, L comme loisir, parce qu'avec Dieu, il y a de l'action, mais il y a du fun, n'est-ce pas? On a un Dieu qui aime faire la fête. Donc, action et compassion ne veut pas dire souffrance, se marcher sur le menton tellement c'est dur. Non, c'est loisir. E comme entraide. J'ai pas oublié une lettre, non? Non, c'est ça. E comme entraide et B comme bienfaisance. E comme entraide, ça nous parle du ensemble. Du fun, tous ensemble. Et B comme bienfaisance, c'est-à-dire que ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres, c'est pour dehors. C'est pas beau ça, hein, n'est-ce pas? Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va y arriver? Je vous disais tout à l'heure, Dieu est en train de changer nos paradigmes, c'est un gros mot, changer nos façons de voir, changer la culture dans laquelle on a baigné, que être avec Dieu, c'était souffrir. Moi, je me souviens, j'ai connu Dieu à 20 ans, j'ai dit à Dieu, Seigneur, t'aurais pu attendre un peu parce que je suis jeune, quoi. J'aurais pu d'abord m'amuser. Mais après un an avec Dieu, j'avais 21 ans, j'ai dit, mais Seigneur, c'est trop bien la vie avec toi. Pourquoi tu m'as pas rencontré plus tôt? J'aurais perdu moins de temps. Et j'ai trouvé que c'était tellement passionnant d'être avec Dieu. Donc voilà, pour dire notre culture qui nous a fait croire, moi je suis une ancienne catho romaine, hein, donc Dieu c'est dur, faut se flageller, faut... Si t'as quelque chose que tu aimes, tu es sûr que Dieu va pas te le donner, parce que voilà. Et ben ça c'est un mensonge. Les désirs et les rêves qui sont dans nos cœurs, le Seigneur nous les a mis parce qu'il nous aime. Et vous savez, c'est Pierre Kanga qui dit ça tellement bien, puis le chant qu'on a chanté il y a 15 jours, c'est qu'on était déjà à côté de Dieu avant même qu'il ne nous ait créés. Et quand Dieu a vu un besoin, qu'il a eu une pensée et un rêve, il t'a créé Émilie, il t'a créé Elisabeth, il nous a créé chacun, parce qu'il y avait un rêve. Donc les rêves qui sont dans nos cœurs, quand on est dans l'intimité de Dieu, ben, c'est les rêves de Dieu. Et alors on s'éclate, quoi. Hier soir, moi je me suis éclatée à la soirée, bref. Et j'ai dit, bah oui, j'aurais rêvé d'être journaliste, et j'ai pas pu. Alors, ouais, parce que, ouais, bon, c'est une autre histoire. Alors, pour vous dire qu'on met du temps à se faire réformer dans les pensées. Donc après avoir eu Caleb, grâce à Denis, à sa persévérance, nous avons fait Caleb AFP. Alors qui sait ce que c'est qu'une AFP ? Association familiale protestante, youpi. Est-ce que vous savez quand sont nés les AFP ? C'est énorme. C'est né à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La France était détruite et c'est né sous l'impulsion de qui ? Du gouvernement. Le gouvernement a dit à l'Église, on a besoin de vous pour reconstruire le pays, on a besoin de familles, hein, c'est loin du gender, hein, n'est-ce pas ? On a besoin de familles saines pour rebâtir le pays. À l'époque, ils savaient qu'une nation commence avec des familles fortes. Et ça s'appelle donc Association familiale protestante. Ce qui veut dire que depuis l'époque, donc ce sont ces associations, entre autres, ce sont les chrétiens qui ont créé les allocations familiales. Allô ? Les allocations familiales, c'est les chrétiens. La sécurité sociale, j'en suis pas sûre, mais certainement, oui, aussi. La sécurité sociale dont nous sommes tellement fiers en France et qui est en train de s'effriter, c'est les chrétiens, pas que les protestants, aussi les cathos. Ah, mon téléphone, oui. C'est les chrétiens, pas que les protestants, les cathos aussi. C'est tous ensemble. Alors il est temps, comme on a dit, hein, je ne sais plus, ce Othniel, ça veut dire, non, Hébron, c'est unité. Donc il faut arrêter de dire, moi je suis mieux que lui, hein. Ah, les protestants sont mieux que les cathos, ou les cathos c'est mieux que les protestants. Non, c'est tous ensemble. Et c'est le cœur de Dieu, c'est la compassion de Dieu. Donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a ces associations familiales protestantes qui sont nées. Ça veut dire, oui, association familiale, pas que protestante, pardon, association familiale. Ça veut dire que nous sommes attendus. Nous sommes attendus au niveau, alors là c'est très bien dit, par Françoise Caron, une femme extraordinaire, vraiment je veux l'honorer ce matin. Donc c'est une femme de pasteur de la région parisienne qui est aveugle et qui sillonne la France, comme Luc le sillonne pour l'éducation chrétienne. Elle sillonne la France pour les associations familiales protestantes. Elle a pris la suite d'un homme fabuleux qui était protestant, qui a Cattelbach, le monsieur Cattelbach qui est décédé l'année dernière, ou il y a 2 ans. Et elle dit très bien, nous sommes attendus, au-delà de les appeler à participer institutionnellement. Donc en 1945, le gouvernement provisoire de la République manifeste la volonté d'associer les familles à la reconstruction civique, sociale, économique et culturelle du pays. Au-delà de les appeler à participer institutionnellement à la définition et au développement des politiques qui les concernent directement. Le résultat de cette volonté s'est traduit par l'ordonnance du 3 mars 1945, c'est donc quelque chose de légal, qui institue alors l'UNAF, c'est l'Union nationale des associations familiales, et les UDAF, qui sont l'Union départementale des associations familiales. Et ainsi sont nées les AFP en 1941, reconnues comme mouvement familial de l'UNAF en 1945. L'UNAF et les UDAF sont des partenaires institutionnels des pouvoirs publics dans tous les domaines de la politique familiale. Nous avons un cadre légal, nous sommes attendus dans nos communes, dans nos départements, pour travailler, œuvrer à la politique familiale. Alors moi, j'ai déjà fait au moins 4 assemblées générales des associations familiales protestantes, et c'est que cette année que finalement mes yeux se sont ouverts. Hein. Il a fallu 4 ans pour entendre, réentendre. Et quand je vous disais que c'est un changement de mentalité, hein, ça prend du temps, voilà. Pourtant, j'avais l'impression que j'étais quelqu'un de rapide. Bah, je peux vous dire, bah non, ça a pris 4 ans, 5 ans. Donc, morale de l'histoire. Et là, j'ai revu, et quand je suis revenue de l'Assemblée générale la dernière fois, alors que je vous parlais, tout d'un coup, j'ai vu Guillaume, qui n'est pas là ce matin, Guillaume Bousquet, et j'ai repensé aux paroles qui ont été données dans cette église il y a au moins 8 ans en arrière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je ne sais plus qui les avait données, mais comme quoi il y avait au milieu de nous plusieurs personnes que le Seigneur équipait pour aider les familles dans les conseils familiales, conseils conjugales, accompagnement, c'est ce qu'on fait déjà au Collège Daniel. Et d'un coup, j'ai dit, mince, mais nous, on a une AFP, on s'est donné du mal. Hein. Denis a beaucoup travaillé pour ça. Ce n'était pas évident parce qu'il faut coller à la législation. Donc, c'est des statuts très compliqués, particuliers. Vraiment, merci, Denis, pour ta persévérance dans tout ce travail aride, vraiment aride. Mais si ce travail a été fait et qu'on ne l'utilise pas, eh ben, tous ces efforts ont été vains et ce n'est pas Denis qui va tout faire tout seul. Donc, d'un coup, j'ai dit à Guillaume, mais Guillaume, la vision que tu as, les formations que tu commences à donner aux parents, mais on peut les faire demain sur Binaire. On a déjà l'autorisation. Nous sommes attendus au niveau de la commune. Et puis d'un coup, j'ai dit, mais si nos locaux ne sont encore pas prêts aujourd'hui, mais on peut déjà commencer dehors. C'est pour ça qu'hier, on a fait finalement ce concert au foyer protestant. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas travailler ici. Mais on ne veut plus se laisser arrêter parce que l'on voit. Et là où le Seigneur m'a vraiment reprise, parce que quand on a fait notre conseil au niveau de l'Église, on a regardé quel était un danger pour nous. Et le danger, c'est que qu'est-ce qui nous met en danger ? Ces locaux ne sont pas finis ici. Et ça nous met en danger. Donc là, on est tous concernés et tous, on doit pouvoir œuvrer ensemble pour dire oui, on veut finir. On ne veut pas juste être des consommateurs et attendre que ce soit terminé, mais ensemble, on veut finir. Mais là où on s'est fait avoir, c'est que du coup, on a regardé simplement sur le besoin. On a regardé à nous-mêmes, en tant qu'association, en tant que maison du tissage. On s'est dit, oh là là, il faut qu'on finisse, il faut qu'on finisse. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, très rapidement, parce qu'on est humain, on revient dans nos propres forces et dans nos propres limites. Et là, le Seigneur me disait, mais moi, je regarde où ? Où est-ce que moi je regarde ? Et le Seigneur, il regarde au-delà, il regarde dehors, il regarde les gens qui ont besoin. Et le miracle, c'est que quand on regarde où le Seigneur regarde, c'est-à-dire les besoins, alors il répond à ce qui nous met en danger. Parce qu'il est le premier concerné, il n'a pas envie qu'on se crache. S'il nous appelle, il ne dit pas, écoute, lève-toi, puis tant pis, hein, si demain tu tombes. Non, non, non. Ça, il s'occupe de nous. Je ne sais pas si vous avez vécu ça comme parents, mais le Seigneur me dit toujours, occupe-toi de mon royaume et moi, je m'occupe de ta famille. Nous, c'est ce qu'on a expérimenté, sinon on n'aurait pas fait l'école et tout ça. Donc nous, on s'occupe des affaires de Dieu, c'est-à-dire qu'on regarde là où il regarde et lui, il s'occupe de nous. Alors s'occuper de nous, ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire, mais ça veut dire qu'il va nous donner toute la provision dont nous avons besoin et en plus, on va s'éclater, comme on a vu tout à l'heure, parce qu'il a mis tous les talents au milieu de nous, sauf que comme nous sommes bien français et qu'on nous a bassinés en nous disant « si tu es doué, tu vas faire maths sup et maths spé », comme si l'excellence c'était que les maths, excusez-moi, moi je suis nulle en maths, alors ça me va bien de dire ça, eh ben non, je veux dire, le temple de Salomon a été bâti, parce que je ne sais plus le nom de ces gens, mais parce qu'il est dit qu'il a donné des dons incroyables, manuels, dans les mains. Et il y a des artisans qui ont une intelligence différente, mais qui est tout aussi belle et précieuse, parce que sans eux, on ne va nulle part. Une école chrétienne, ce n'est pas que des profs. Une école chrétienne, c'est aussi des administrateurs. Ce sont des bâtisseurs. Ce sont des gens qui ont des grands cœurs pour encadrer les enfants. C'est toute une famille. C'est toute la richesse de la famille de Dieu. Donc voilà. Simplement, je voulais vous dire, il y a cette vision au milieu de nous. Elle date de longtemps. Plusieurs se sont mouillés. On a plusieurs Caleb et Josué au milieu de nous qui sont toujours là, qui sont passés au travers du désert, dont je fais partie, où on a été confrontés à nos cœurs, où on a vu nos limites. Et pour ma part, j'en suis arrivée à dire « Seigneur, je ne peux pas ». Alors, youpi, ça veut dire qu'il va bientôt intervenir. Et enfin, il dit « il y a des durs à cuire hein. ». C'est le revers du point fort. Hein. On est des durs à cuire. Mais le Seigneur, il dit « oh, pas tout seul ». Donc, simplement, je voulais vous dire, un, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement aujourd'hui ? vous inscrire à l'AFP, parce que ça veut dire que légalement, vous devenez une voix audible. Et ça, c'est moi, hein. Je suis désolée, Denis, ça fait 2-3 ans que j'ai dit que j'allais m'occuper de faire du racolage pour que tout le monde signe et je ne l'ai pas fait. Donc, si j'oublie de vous relancer, venez me voir. Il faut habiter Guebwiller ou le Florival. Et donc, tout le monde peut faire partie de l'AFP. Donc ça, déjà, c'est une chose. Si vous faites partie de l'AFP, vous pourrez siéger quand il y aura changement d'équipe municipale. On a un siège qui nous attend. Alors, ce n'est pas le conseil de la commune exactement, mais c'est tout ce qui est de la famille qui nous est réservé. Mais si on ne le demande pas, personne n'y va. Sachez que nous ne sommes plus une AFP toute seule, AFP Caleb. Nous sommes une fédération 68 d'AFP, c'est-à-dire que nous sommes 4 AFP dans 68. Donc, il y a celle de la porte ouverte qui s'appelle Sans Frontières. Il y a Barnabas, je ne sais plus exactement ce qu'ils font. Il y a Famille Je T'aime, que nous connaissons très bien. Et il y a Caleb. Ça veut dire que, moi, à partir de janvier, je vais siéger à l'UDAF, à Colmar, de plein droit. Je leur ai dit, écoutez, je n'ai pas beaucoup de qualifications, mais j'ai 4 enfants, je suis grand-mère. Je dis, mais c'est ce qu'il nous faut. Je veux dire, pour représenter des familles, il faut des gens qui aient eu des enfants, qui ont des petits-enfants. Donc, vous inquiétez pas, on ne vous demande pas d'avoir fait maths sup et je ne sais quoi, ou simplement d'être là. Et ce qui est important, c'est d'être là, que chacun sache simplement qui il est et qu'il donne ce qu'il a. Moi, j'ai l'habitude de dire, j'ai dit longtemps au Collège Daniel, si chacun donne le peu qu'il a, on ne manque de rien et nous sommes très riches. Donc, sachez qu'il y a une fédération, il y a une AFP, donc bienvenue, je vais rechercher les papiers, hein, et on va les laisser ici pour que vous puissiez, semaine après semaine, vous inscrire. Et il y a ces locaux qu'on veut terminer. Et là, pour ça, regardons ensemble, appelons ensemble, relevons-nous, sachant que Dieu pourvoit. Et je crois qu'alors que nous allons vers l'extérieur, le Seigneur va donner tout ce qu'il faut. Et alors que nous finissons, on a abordé beaucoup de choses, je vous propose simplement de prendre un temps où on ferme les yeux. On est tous différents. Moi, par exemple, je suis une hyperactive. Donc, pour moi, c'est toujours... j'ai l'impression que je vais y arriver moi-même. Anne, qui est plus quelqu'un de réfléchi, elle, c'est plus les craintes. Bon, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de craintes. Hein. Mais je veux dire, on a tous des géants différents, on a tous des freins différents, le Seigneur nous connaît. Mais ce qui est magnifique, c'est le Seigneur, il connaît nos points forts, il connaît nos points faibles, il nous aime, il nous appelle à lui tel que nous sommes. Et simplement, Papa, on vient à toi. Je te rends grâce pour la fidélité de chacun, Seigneur. Et je te rends grâce pour ta fidélité à toi, qui fait que nous sommes tous là ce matin. Et je te rends grâce aussi pour ton bras qui n'est pas trop court, pour ceux qui ne sont pas là, mais que toi tu connais. Ils ne peuvent pas rester loin de ton regard, où qu'ils aillent, en haut, en bas, dans le ciel, ailleurs. Tu es toujours là et tu t'occupes d'eux. Mais nous, on veut, Seigneur, ce matin simplement te déposer ce qui nous a arrêtés. Cher Saint-Esprit, tu es à côté de nous et révèle-nous nos freins. Révèle-nous nos géants, nos craintes. Pour qu'on puisse simplement te les abandonner, Seigneur, renoncer à nos accords passés avec ces mensonges qui ont voulu nous tenir captifs. Alors je vous donne une clé, mes amis, reconnaître d'abord l'ennemi, reconnaître là où on s'est fait piéger, reconnaître le mensonge ou les mensonges qui nous ont retenus. Une fois qu'on les a reconnus, y renoncer. Prenez des notes si jamais. Moi, j'ai dû me l'écrire, je n'étais pas capable au début de me souvenir des 4 piliers. Renoncez à ces mensonges. Demandez pardon et rompez tout accord que vous avez fait avec ces mensonges. Ensuite, abandonnez ces situations qui vous ont fait mal et qui vous tiennent encore. Abandonnez-les au Seigneur. Il y en a qui disent « Oui, je pardonne, mais je n'oublie pas. » Attention, c'est que tu n'as pas abandonné ta situation. Tu lâches tes situations qui t'ont gardé en échec et tu demandes pardon pour tes contre-réactions. Demandez pardon pour vos contre-réactions et amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ et alors là, Dieu nous libère. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as appelés ensemble. Merci parce que tu nous amènes à cette révélation du sacerdoce dont nous a parlé Nicolas la semaine dernière. Et le sacerdoce est un mot pluriel. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ce n'est pas chacun pour soi, mais c'est tous ensemble. Seigneur, dans ces temps dans lesquels nous vivons, on veut simplement, ensemble et individuellement, venir devant toi et te retrouver, toi, abandonner ces choses et recevoir, croire ce que toi, tu nous donnes. Au nom de Jésus. Et Seigneur, je te demande pardon pour notre incrédulité, pour toutes les fois où on a dit on n'a pas assez, on n'a pas, alors que toi, tu nous dis que tu nous as tout donné et que nous avons tout. Alors change, Seigneur, change-nous, change nos cœurs, que nous puissions changer de langage et que nous puissions parler ce « tu nous as tout donné » et qu'avec humilité, nous allions ensemble, chacun pour notre part, apportant nos pains, nos poissons. Je te bénis pour la richesse de cette Église qui sont notre jeunesse. Je te bénis pour les cœurs de serviteurs qu'ils ont, parce qu'ils persévèrent avec nous. Et nous, nous ne voulons pas être de ceux qui abandonnent, mais nous voulons rester ces Caleb pour aller avec eux. Et Seigneur, appeler la bénédiction, parler la bénédiction sur leur vie, comme des pères et des mères. Et toi, tu dis que les fils et les filles des justes possèdent le pays. Et tu as fait de nous des fils et des filles, tu nous as rendus justes et c'est pourquoi nous disons sur nos enfants et nos petits-enfants qu'ils possèdent le pays en Jésus.
Amen. Merci Seigneur. Merci à Anne et Manuela pour cette vision de Caleb qui veut dire un cœur entier. Caleb, un cœur entier. Entier pour Dieu. Et juste en terminant ce culte, imaginez ce lieu en bas avec ce coffee-bar, cette scène pour des concerts, pour des pièces de théâtre, pour des partages en famille, pour des anniversaires, pour toutes sortes d'initiatives au service des familles, de la ville et manifestant la culture du royaume. Je termine par ce que je vous ai dit aussi au niveau annonce par rapport à l'avant. Ce mercredi-là,